Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Alors, lorsqu'on pense au Don Quichotte, ce Don Quichotte traduit par Shelton, ce Don Quichotte utilisé pour l'adaptation théâtrale de 1613, on doit faire retour à ce qu'a été ce processus de publication même du texte de Cervantes pour en comprendre la variabilité, la mobilité, la malléabilité. Et il y a plusieurs raisons tout à fait puissantes qui doivent nous conduire à montrer comment le texte lu par un lecteur en 1605 dans la première édition de Don Quichotte ne pouvait être que différent, dans une mesure qui reste à apprécier, de celui qui était sorti de la plume de Cervantes et que Cervantes avait dû, au fil des années, consigner sur des cahiers manuscrits, sur ce qui était le manuscrit autographe de Don Quichotte. La première observation à mener, c'est évidemment de considérer quelles sont les raisons et les modalités qui font que s'éloigne nécessairement du texte autographe consigné par un auteur sur les feuillets de papier où il écrit son œuvre, l'éloigne nécessairement de la page imprimée lue par le lecteur. Et qu'est-ce qui se joue dans cet écart entre une écriture manuscrite autographe et d'autre part un processus de publication imprimée? La première raison de la différence est que jamais dans les ateliers d'imprimerie du XVIe ou du XVIIe siècle, on utilise les manuscrits d'auteurs comme copie pour composer le texte imprimé. Toujours, le manuscrit qui est utilisé est un manuscrit qui a été mis au propre par un scribe professionnel et qui, à partir du manuscrit d'auteur, avec ses incertitudes, ses ratures, ses formes propres, établit ce que dans l'espagnol du XVIe, XVIIe siècle, on appelle une copia in limpio, une copie au propre de ce texte. Cette copie au propre ayant deux fonctions, l'une d'être remise au Conseil du roi pour obtenir la permission d'imprimer et le privilège, et l'autre, une fois cette permission et ce privilège obtenus, qui suppose un processus de censure, de lecteur par des censures, puis une approbation, puis un privilège, cette copie au propre ainsi approuvée, remise et remise au libraire-éditeur et à l'imprimeur pour servir de copie pour la composition typographique du texte. Or, dans cette distance, c'est-à-dire entre la copie au propre et le manuscrit de l'auteur, se joue une série de différences, puisque les copistes ont des normes, des habitudes, des conventions qu'ils imposent au manuscrit d'auteur et qui étaient tout à fait absentes dans ce manuscrit d'auteur. Par exemple, les manuscrits que l'on peut avoir pour le XVIe, XVIIe siècle ne présentent aucune régularité graphique, ignorent quasiment la ponctuation, et donc le copiste professionnel qui établit cette copie va introduire un minimum de régularité graphique dans la manière d'écrire les mots, et d'autre part va imposer un premier système de ponctuation, pensant évidemment à la lisibilité du texte. Et donc, du coup, on voit qu'il y a là un premier ensemble de décisions textuelles qui sont prises par ces copistes, le plus généralement anonymes, à partir de ce qui était le manuscrit d'auteur, et qu'un premier écart s'insinue entre habitudes et conventions qui sont propres du travail rémunéré de la copie et d'autre part, les pratiques ordinaires de l'écriture manuscrite. On a quelques exemples de l'écriture manuscrite de Cervantes, pas pour le Quichotte, mais pour des lettres, et on voit très bien qu'il y a là une très grande irrégularité dans la graphie des mots et une quasi-absence de ponctuation. Il y a donc un premier écart entre le manuscrit d'auteur et la copia in limpio. Il y a un second écart, plus puissant encore, qui s'inscrit lorsque cette copie au propre, qui a reçu l'approbation des censeurs, qui a reçu un privilège du roi, entre dans l'atelier d'imprimerie pour devenir la copie utilisée pour la composition typographique. En effet, dans cette seconde étape, les interventions de ceux que l'on désigne comme correcteurs d'imprimerie sont absolument décisives. Et tous les traités ou tous les textes qui, au XVIIe siècle, sont consacrés à l'art de l'imprimerie, le considérant comme un art libéral et non pas mécanique, dans la mesure où c'est un art dans lequel l'entendement joue un rôle décisif à tous les moments de la production du processus de publication, tous insistent sur ce rôle décisif, soit des correcteurs, soit des compositeurs, on dirait aujourd'hui des typographes, pour l'établissement même du texte dans sa graphie, son orthographie et la ponctuation. Je prends trois exemples venus du même monde que celui de Don Quichotte, c'est-à-dire l'Espagne du XVIIe siècle, même si certains sont un peu plus tardifs, pour montrer qu'après les interventions des copistes professionnels sur le manuscrit autographe, viennent les décisions prises par les correcteurs ou les compositeurs sur la copia in limpio, sur la copie mise au propre. En 1619, Gonzalo de Ayala, qui était lui-même un correcteur d'imprimerie, indique que le correcteur doit, je cite dans la traduction, connaître la grammaire, l'orthographe, les étymologies, la ponctuation et la disposition des accents, a puntuación, colocación de acentos. Ce qui signifie que même après l'intervention des scribes professionnels, dans ces copies qui entrent dans l'atelier d'imprimerie, les accents ou la ponctuation restent insuffisants. Et que donc le travail des correcteurs est d'introduire ces éléments. Et si l'on peut dire évidemment que les accents sont un élément qui n'a pas le même un rôle décisif dans la construction du sens du texte, on ne peut pas en dire de même de la ponctuation. Comme chacun sait, la ponctuation est une manière d'organiser de la signification dans le texte, soit une signification en relation avec des normes grammaticales, soit une signification en relation avec les formes d'oralité qui sont enregistrées ou proposées par la ponctuation du texte. Et on voit là le rôle décisif du correcteur dans cet achèvement du texte à partir de la copie au propre qui lui a été transmise. À la fin du siècle, en 1675, Melchor de Cabrera, qui est un avocat qui rédige un mémoire pour défendre les droits, les exemptions, les immunités des imprimeurs de Madrid, souligne que le compositeur, c'est-à-dire non pas le correcteur qui travaille sur le manuscrit, mais le compositeur qui compose le texte typographiquement avec les caractères mobiles, doit, je cite, « savoir placer les points d'interrogation et d'exclamation » et les parenthèses, parce que souvent, l'intention des écrivains est rendue confuse du fait de l'absence de ces éléments nécessaires et importants pour l'intelligibilité et la compréhension de ce qui est écrit ou imprimé, parce que si manque l'un ou l'autre, la signification change, s'inverse et se transforme. Porque cualquiera que falta muda, trueca y varia el sentido. C'est une remarque très aiguë du rôle du compositeur, donc celui qui, au moment de transformer un texte manuscrit en une composition typographique, doit prendre des décisions qui se substituent aux absences du texte, absence dans l'écriture de l'auteur, absence dans la copie du scribe, absence éventuellement dans la correction du correcteur, de façon à ce que des éléments comme les ponctuations ou les parenthèses qui contribue puissamment au sens, soit mise en place, parce que, avec une sorte de conscience graphique très forte, le texte montre qu'un même texte, avec ou sans certains de ces éléments, peut voir son sens modifié, voire inversé. Il y a là une remarque très aiguë sur la construction même de la signification, qui ne dépend pas uniquement de l'ordre des mots, mais qui dépend aussi fondamentalement de ces éléments qui sont des dispositifs graphiques qui construisent de la signification. Et en 1680, un imprimeur madrilène, Alonso Víctor de Paredes, qui avait été imprimeur et à Séville, puis ensuite à Madrid, revient au rôle du correcteur, c'est-à-dire de celui qui, une fois ayant reçu la copie au propre, intervient sur cette copie pour l'achever. Et Paredes écrivait « Comprendre l'intention, ce que doit faire le correcteur, c'est comprendre l'intention de l'auteur dans ce qu'il fait imprimer, non seulement pour introduire la ponctuation adéquate, mais aussi pour voir si celui-ci n'a pas commis quelque négligence afin de l'en avertir. » Et donc le rôle du correcteur est à la fois de compléter le texte, comme si les auteurs se préoccupaient peu dans leurs manuscrits autographes et comme si les copistes n'ajoutaient pas suffisamment les signes nécessaires à la ponctuation, donc poner la puntuación legítima, mais aussi de contribuer en quelque sorte à l'éclaircissement du sens, là où l'intention de l'auteur a pu être trahie par son écriture et les copies qui en ont été faites, et en quelque sorte le correcteur se construisant comme un collaborateur ou un co-auteur dans une certaine mesure. Ce qui reste fondamental dans cette série de textes, c'est de considérer que le texte qui sort de la plume d'un auteur au XVIe ou au XVIIe siècle est un texte inachevé, et que son achèvement suppose de multiples interventions qui sont réparties dans et hors l'atelier par le copiste qui établit la copie au propre, dans l'atelier par le correcteur qui travaille sur cette copie, ou par le compositeur au moment même où, face à la copie manuscrite, il compose à partir des caractères mobiles de sa casse d'imprimerie les pages du texte qui vont être celles du livre. Il y a donc là, dans l'atelier, une première raison d'un écart qui est manifesté entre cette copie préparée ou par correcteur ou compositeur et ce qui était entré dans l'atelier, c'est-à-dire la copie du copiste qui avait été soumise à la censure royale. Mais il y a une autre raison plus technique, et c'est pourquoi je plaide pour cela, même si ce sont des aspects plus techniques, mais il me semble que très souvent la critique littéraire a oublié ces dimensions techniques dans son analyse des textes. Il y a une deuxième série d'interventions faites dans les ateliers sur la copie au propre. Non pas celle que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire l'accentuation, la ponctuation, les dispositifs graphiques, par exemple les parenthèses, qui donnent du sens, mais des interventions qui ont à voir, elles, avec le travail même dans l'atelier. C'est-à-dire avec cette habitude, au XVIe et XVIIe siècle, pour de nombreux genres, de composer les pages qui sont celles du livre, non pas en suivant l'ordre du texte de l'auteur et de la copie, mais en composant selon un procédé que l'on appelle par forme, c'est-à-dire en composant toutes les pages qui sont assemblées dans une même forme, c'est-à-dire un même châssis de bois, et qui sont imprimées du même côté d'une feuille d'imprimerie. Or, évidemment, les pages qui sont imprimées du même côté d'une feuille d'imprimerie ne sont pas des pages qui se suivent nécessairement dans l'ordre du texte. Pour prendre l'exemple le plus simple, si vous êtes face à un volume in folio, la page 1 et la page 4 doivent être imprimées sur un même côté d'une feuille d'imprimerie, et les pages 2 et 3 doivent être imprimées sur l'autre côté de cette feuille d'imprimerie. La composition par forme a des avantages puisqu'elle permet de commencer à imprimer des feuilles avant, enfin certains des côtés de feuilles avant d'avoir achevé la composition de toutes les pages d'un même cahier, mais en même temps, elle requiert une préparation de la copie extrêmement précise et méticuleuse, puisque celui qui prépare cette copie doit pouvoir repérer, à partir du texte manuscrit, la division qui correspond plus ou moins à la division des pages d'imprimerie, et ainsi ce que l'on appelle en anglais « cast off », en français « calibrage », en espagnol « contar » ou « la cuenta », de diviser le manuscrit sur lequel il travaille, de façon à repérer les quantités de textes qui vont correspondre aux différentes pages imprimées, et du coup, de pouvoir composer, non pas en suivant l'ordre du texte qui immobiliserait pendant de trop longues durées les caractères, mais en composant selon les formes, c'est-à-dire selon les pages qui se retrouveront imprimées du même côté d'une feuille d'imprimerie. Et si l'on pense par exemple à un inquarto, il faut composer dans la même forme les pages 1, 4, 5 et 8, et donc, du coup, ensuite, les pages 2, 3, et 6 et 7, ce qui suppose pour faire la composition des pages 2, 3, 6, 7 que l'on ait repéré pour ce cahier quels sont les fragments du texte qui vont correspondre à ces pages. Et l'on a peu en France, mais beaucoup en Espagne, conservé ces copies utilisées dans les ateliers avec cette préparation qui était le calibrage du texte, qui permettait de composer un texte sans suivre nécessairement l'ordre de son écriture, mais pour économiser du temps en suivant l'ordre qui régit les formes, c'est-à-dire les pages imprimées du même côté d'une feuille d'imprimerie. Si vous êtes intéressé par cette dimension, il y a dans le premier volume de l'histoire de l'édition française que j'avais pu diriger avec Henri-Jean Martin un article extrêmement clair sur cette question, écrite par Madame Jeanne Vérin-Forer, et qui montre très bien quels sont à la fois les avantages de la composition par forme et non pas de la composition qu'on appelle seriatim, c'est-à-dire en suivant l'ordre du texte, puisque vous pouvez composer toutes les pages correspondant à une forme alors même vous n'avez pas à du coup, vous pouvez les imprimer avant même d'avoir composé la totalité des pages pour un même cahier, mais aussi les contraintes qui supposent ce calibrage à l'avance qui repère comment les pages imprimées vont correspondre à des fragments du texte manuscrit. Et si le calibrage est mal fait, on peut entrer devant des difficultés, c'est-à-dire le fait que lorsque le compositeur est amené à composer la dernière page d'un même cahier et qu'il a ou trop ou pas assez d'espace pour la composer, il peut être amené à des décisions qui ont des effets sur le texte lui-même. Si l'espace qui reste est trop vaste, ce sont des décisions de type typographique, c'est-à-dire éventuellement de changer la taille du caractère ou de changer la mise en page. Mais si l'espace manque, ce sont des décisions de type textuel, c'est-à-dire éventuellement des coupures à l'intérieur du texte, de façon à le faire tenir dans la page, l'espace qui reste assigné pour, par exemple, la dernière page d'un cahier, et qui est souvent d'ailleurs la première du point de vue dans l'ordre du texte. Et on a des exemples spectaculaires de cette décision à prendre immédiatement par le compositeur devant une difficulté qui est le résultat d'un calibrage qui a été fait de manière erronée. Et Paredes le notait parce qu'il disait que le calibrage pouvait être erroné parce que ce ne sont pas des anges qui le font. No son angeles los que cuentan, donc l'homme est faillible et les erreurs peuvent se multiplier. Et il évoquait que parfois pour résoudre ces difficultés, le réprouvant, mais le notant cependant que les compositeurs allaient jusqu'à l'emploi de procédés et qui ne sont pas permis, medios feos y no permitidos, ce qui était faire allusion à des interventions sur le texte. C'est-à-dire parfois, s'il y a trop d'espace, des additions, mais plus souvent encore, lorsque l'espace manque pour la dernière page d'un cahier qui doit être composé, des abréviations ou des coupures. On voit donc, comme conclusion fondamentale, lorsqu'on pense au Quichotte de 1605, mais pas uniquement à lui, évidemment, qu'il y a des séries d'écarts qui, à tout moment de ce processus de publication, s'insèrent entre le manuscrit autographe, la copie au propre, la copie préparée par les correcteurs et les conséquences du calibrage de cette copie. Le processus même de composition typographique ajoute à ces écarts, puisque non seulement peuvent s'y insérer des erreurs habituelles des compositeurs, des lettres ou des syllabes inversées, des mots oubliés, des lignes qui sont sautées, mais plus encore, comme on a pu l'observer en comparant, par exemple, dans le Quichotte, les titres des chapitres et les titres des mêmes chapitres dans la table des matières, la tabla de los capítulos, que le même texte, on peut le supposer, dans la copie, peut donner lieu à des lectures différentes par différents correcteurs ou compositeurs et qui peuvent entraîner dans des éléments aussi simples que le titre d'un chapitre et la référence qui est faite à ce chapitre dans une table des chapitres, des variations dans l'usage des pronoms, la concordance des temps, les accords grammaticaux, le lexique lui-même. On voit donc que, contre un mythe, c'est-à-dire le mythe que la première édition imprimée d'un texte est le texte tel que son auteur l'a écrit, contre ce mythe qui a renforcé le prestige donné aux éditions Princeps, on doit introduire cette dimension tout inverse qui est celle des écarts et qui est celle du fait qu'on ne peut en aucune manière considérer le texte imprimé comme s'il s'agissait du texte qu'a écrit son auteur, qu'anonymement, ont contribué aux formes graphiques, orthographiques, de ponctuation de ce texte, tous ces acteurs qui sont présents dans la chaîne du processus de publication, copiste, correcteur, compositeur. Le mythe de l'identité entre l'édition Princeps, la première édition, et d'autre part, l'œuvre de l'auteur, telle qu'il l'aurait confiée au manuscrit, au feuillet de son manuscrit, a pu produire plusieurs illusions ou plusieurs errements. Le premier a été, surtout à partir du début du XVIIe siècle, lorsque des procédés techniques l'ont permis, mais plus encore à la fin du XIXe siècle, a été le fétichisme des facsimilés des premières éditions, c'est-à-dire l'idée que l'on pouvait reproduire à l'identique la première édition et qu'on le voit avec des procédés qui sont antérieurs à la photographie dans les années 1820-1830, mais surtout à la fin du XIXe siècle, avec le développement des techniques photographiques, le facsimilé de la première édition donnant l'illusion de l'authenticité. Et d'une authenticité qui renvoyait à l'écriture même de l'auteur, comme si finalement cette technique de reproduction diffusait la première édition et permettait de diffuser du même coup ce qui était le texte le plus authentique, le plus véridique. Et parfois, non plus dans les techniques de reproduction des textes, mais dans les techniques du commentaire des textes, au cours du XXe siècle, le fait de trouver dans des éditions premières des éléments qui pouvaient paraître des anomalies ou des bizarreries a pu être assumé par la critique comme étant à chaque fois des intentions volontaires. C'est-à-dire non pas mettre en jeu ce qui pouvait être des distorsions opérées par les erreurs de tel ou tel des acteurs de la chaîne de publication, mais toujours considérer que si le texte donnait cette leçon avait du sens, et on a vu ainsi des constructions de la signification, même pour des passages ou des terme qui pouvait paraître tout à fait étrange, mais réinterprété par cette sorte de fidélité ou de foi dans l'édition imprimée comme, en quelque sorte, représentation sans écart de l'écriture autographe, du coup, de donner des interprétations à chacun de ces bizarreries, de chacune de ces bizarreries comme étant des intentions d'auteur, comme si finalement il y avait là toujours le contrôle du texte dans sa forme imprimée par la volonté auctoriale. Contre à la fois cette sorte de foi dans la première édition qui a été multipliée par les éditions facsimilées, et de l'autre côté cette foi dans la première édition comme renvoyant nécessairement à une intention auctoriale, je pense que l'histoire des processus de publication réintroduit les multiples interventions qui peuvent transformer ou qui transforment de fait le texte auctorial, habitude de copiste, erreur de compositeur, préférence de correcteur. Et en ce sens-là, aucune édition imprimée, pas même la première, ne peut être considérée comme la représentation sans distance de l'écriture sortie de la plume de l'auteur et consignée sur son manuscrit, les cahiers ou les feuilles volantes qui ont constitué sans doute de manière souvent très touffue les manuscrits d'auteur avant qu'ils soient mis en propre par des copistes. On voit donc là une exigence, c'est-à-dire l'exigence de rapporter, de rappeler comment ce processus introduit de la variation et de l'écart et de la différence. Pour autant, est-ce que l'on doit considérer que les auteurs n'interviennent en aucune manière dans les formes imprimées qui sont données à leur texte ? Si l'on suit l'analyse que mène Francisco Rico sur le Don Quichotte qui nous occupe dans ce cours, on voit que la réponse est sans doute non. Il y a des traces d'intervention qui peuvent être détectées à l'intérieur de ces formes imprimées qui dépendent d'autres acteurs, compositeurs ou correcteurs. Dans le livre, Rico défend une thèse quant à la composition même de Don Quichotte, et qui est la suivante, c'est le fait qu'une fois qu'une copie au propre avait été faite du manuscrit de Cervantes, et que cette copie a été soumise au conseil du roi, au censeur, approuvée, reçu un privilège, en même temps, parallèlement, Cervantes a continué à travailler sur sa propre manuscrit pour insérer un certain nombre d'additions, modifications ou transformations. Et c'est sans doute la rencontre dans l'atelier entre la copie mise au propre et approuvée et d'autre part de ce manuscrit qui a continué à être transformé, ce qui normalement était tout à fait illégal, puisque la copie qui était remise au Conseil du roi devait être exactement celle qui ensuite serait imprimée. Cette tension a pu expliquer un certain nombre des anomalies de l'édition de 1605, anomalies dont héritent évidemment tous les traducteurs dans les autres langues. L'une des anomalies que j'avais signalées déjà la fois dernière est la discordance qui peut exister entre certains titres de chapitres et les contenus mêmes de ces chapitres, comme si les titres des chapitres maintenaient un état de division du texte qui n'était plus celui qui était composé par les compositeurs. Donc, comme si les divisions du texte qui existaient dans la copie au propre, en fait, avaient été ensuite bouleversées, modifiées par Cervantes. Deux exemples. Le chapitre 10 a pour titre « De ce qui advint de surcroît à Don Quichotte avec le Biscayen et du danger où il se vit avec une troupe de Yanguas », c'est-à-dire des muletiers originaires du bourg de Yanguas dans la province de Ségovie. Or, les deux éléments qui sont annoncés au titre ne correspondent aucunement au contenu du chapitre, puisque d'une part, ce qui est annoncé dans le combat avec le Biscayen est achevé au chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 9, et là je rappelle, il s'agit du titre du chapitre 10, et que d'autre part, ce qui est annoncé comme devant advenir, c'est-à-dire la rencontre avec ces muletiers de Yanguas, n'apparaîtra qu'au chapitre 15. On a donc un titre de chapitre qui, dans ces deux éléments, ne correspond en rien au contenu de ce qui est annoncé, puisque ce contenu est dispersé soit avant, soit après. Et donc, il y a là, sans doute, comme une trace archéologique d'un état de construction du texte qui a pu être soumis au Conseil du roi, mais qui finalement a été réorganisé de manière différente lorsque le texte est entré en composition dans l'atelier. Et l'autre exemple spectaculaire, chapitre 36, c'est celui qui a pour titre, qui traite de la féroce et formidable bataille que Don Quichotte livra à des outres de vin rouge, ainsi que d'autres événements qui lui arrivèrent à l'auberge, qui est un chapitre qui annonce au 36 le combat de Don Quichotte contre les outres de vin prises pour le tourmenteur de la princesse Micomicona, alors que cet épisode se trouve en fait au chapitre précédent, comme si Cervantes, dans une révision de son texte, avait décidé non pas de donner les trois chapitres du Curieux impertinent à la suite, totalement détachés de l'histoire du Quichotte, mais avait introduit dans le dernier chapitre qui raconte l'histoire du Curioso impertinente cet épisode de Don Quichotte, qui est le seul à ne pas l'écouter, puisqu'il est endormi et envahi par ce désir de combat contre le géant tourmenteur de la princesse. Comme si finalement, après une première organisation où, effectivement, au chapitre 36, se passait cet épisode, Cervantes l'avait mise dans le chapitre précédent, de façon à créer un rapport un peu plus intense ou un peu plus grand entre la nouvelle lue du Curieux impertinent et l'épisode de Cervantes. Voilà qu'il y a une discordance qui introduit nécessairement une intervention de l'auteur sur l'organisation même du manuscrit, une fois que celui-ci pourtant a été soumis au Conseil du roi, et on peut donc penser à un travail parallèle sur le manuscrit conservé par Cervantes parallèlement avec l'itinéraire de la copia in limpio au Conseil du roi, puis ensuite dans l'atelier. Dans les additions que fait Cervantes sur son propre texte, un autre épisode que j'ai commenté après Francisco Rico, dans un livre publié sous le titre « Inscrire et effacer », était que les interventions qu'on peut détecter de Cervantes sur la première réédition de Don Quichotte, c'est-à-dire la même année 1605. Et pour montrer ces interventions, on peut suivre une petite histoire qui est un épisode fâcheux et fameux qui se lie avec le vol de l'âne de Don Quichotte et qui montre comment trois éditions, 1605 qui est en fait imprimé en 1604, 1605 première réédition et 1608 vont entraîner des glissements, des modifications. Tout commençait avec l'édition imprimée dans les derniers mois de 1604, mais sortie avec la date de 1605, qui était que l'âne de Sancho disparaissait au chapitre 25 et réapparaissait au chapitre 46. Au chapitre 25, Sancho mentionnait la disparition de son âne, mais ensuite il se retrouvait juché sur cet âne au chapitre 46. Et du coup, des adversaires de Cervantes s'étaient emparés de cette histoire pour montrer la désinvolture d'écriture de Cervantes, sa négligence pour un détail, mais qui montrait qu'il y avait là des contradictions ou dans son écriture. Et du coup, pour pouvoir répondre à ces critiques, pour la réédition de 1605, Cervantes avait décidé d'écrire à la fois les petites histoires du vol de l'âne, par Inès de Passamonte, et de la récupération de l'âne par Sancho. Ce sont deux interpolations dont Rico a bien montré stylistiquement qu'elles étaient de la plume de Cervantes et qui furent introduites dans la deuxième édition, 1605, même année, chapitre 23 pour le vol et chapitre 30 pour la récupération. Mais malheureusement, le correcteur n'a pas été assez attentif et plusieurs phrases du chapitre 23 et la première du chapitre 25, c'est-à-dire entre le vol et la récupération, n'ont pas été corrigées et Sancho s'y trouvait encore juché sur l'âne qui pourtant lui avait été volé. Et du coup, dans la troisième édition de Madrid de 1608, publiée par le même libraire éditeur Francisco de Robles, par le même atelier d'imprimerie, Juan de la Cuesta, il y a une tentative pour corriger ces incohérences en introduisant dans le chapitre 23 des explications supplémentaires qui indiquaient qu'une fois son âne dérobé, Sancho allait à pied, mais qu'il était chargé du bât et de la selle de sa monture disparue, ce qui n'était pas aussi clair dans l'édition de 1605. Et ces allusions vont s'éclairer dans la seconde partie du Quichotte, en 1615, lorsque Sancho, racontant à nouveau le vol de son âne, confirme que ce âne fut volé comme fut volé le cheval de Sacripante dans l'Orlando Furioso par Brunello. Et ce vol-là était un vol de Sacripante endormi sur son cheval, et donc le cheval fut volé, mais les bas et la selle furent conservés. Alors on voit qu'il y a trois états de cette histoire, l'une qui passe inaperçue en 1604-1605, les deux interpolations de 1605, mais malheureusement soit introduites au mauvais endroit, soit n'ayant pas impliqué la correction qui aurait été nécessaire pour les rendre logiques, et en 1608, des ajouts qui essayent de rendre compte d'anomalies textuelles de 1605, c'est-à-dire Sancho qui n'a plus son âne, mais qui a conservé le bât et la selle de l'âne. Alors, cette histoire est insignifiante, mais en même temps, elle montre que les auteurs, dans certaines conditions, peuvent intervenir sur les rééditions du texte, alors même qu'ils n'ont en général aucunement la possibilité de corriger les épreuves des textes, à l'inverse des auteurs modernes, puisque ce qui est fondamental dans un atelier typographique ancien, c'est de pouvoir réutiliser les mêmes caractères typographiques pour composer de nouvelles pages et de nouvelles formes, et que donc le temps laissé à la correction des premières épreuves qui sont sorties de la presse est extrêmement limité. Et seulement si l'auteur est présent dans l'imprimerie, il peut corriger les épreuves. Donc, il est clair que cet état du texte qui résulte de la correction des épreuves dépend uniquement des correcteurs à l'intérieur de l'imprimerie. En revanche, comme on le voit ici, à l'occasion des rééditions, des modifications textuelles peuvent être apportées, et ce ne seraient pas les seuls d'ailleurs dans le Don Quichotte de 1605-1608, puisque l'on voit par exemple, avec un détail tout à fait significatif, que lorsqu'il est dans la Sierra Morena, Don Quichotte improvise un chapelet, et en 1604, c'est avec un morceau de sa chemise qu'il construit ce rosaire. Déchirant un grand morceau des pans de sa chemise qui allait flottant, il y fit 11 nœuds, dont un plus gros que les autres, et il s'en servit comme d'un chapelet pendant tout le temps qu'il passa là, durant lequel il dit un million d'ave. Et sans doute ce texte où le chapelet était identifié à une matière tout à fait ordinaire ou à la limite blasphématoire, c'est-à-dire des fragments de son vêtement déchiré, avait attiré l'attention et la réécriture pour la seconde édition en 1605 est différente dans la mesure où il ne s'agit plus ici de ce vêtement en haillons qui sert à faire un objet qui appartient au culte catholique, mais de se servir de ce que donne la nature elle-même, et la phrase est réécrite pour être réimprimée comme suit, et lui servir de chapelet, qu'est-ce quelques grosses galles d'un chêne-liège, c'est-à-dire de ce qui est produit par le chêne-liège, comme des amandes ou comme des objets, enfin des produits naturels, qu'il enfila et en fit un rosaire de 10 grains. C'est-à-dire, du coup, qu'il n'y a plus cette profanation du chapelet par l'utilisation des pans d'une chemise qui allait flottant et en haillons, mais un chapelet qui est construit, enfin qui est fait à partir du chêne-liège. On voit donc du coup que les interventions sont possibles, les unes pour essayer de corriger des incohérences, les autres pour prévenir ou répondre à de possibles censures. Mais évidemment, ces interventions sont faites à partir de feuilles volantes ou d'un manuscrit sur lesquels on a introduit des additions ou des suppressions, avec tous les risques de confusion, d'oubli dans le processus de composition. Et c'est ce qui explique sans doute pourquoi les premières éditions du Quichotte traînent comme un boulet d'incohérence cette histoire de l'âne volé puis disparu, puisque tous les efforts pour pouvoir la rendre plus cohérente se heurtent à des erreurs dans l'introduction de ces interpolations à l'intérieur du texte. Et seuls les correcteurs plus avisés ou plus attentifs peuvent maîtriser cette introduction de correction à l'intérieur d'un processus de composition. Et c'est ce que fait, par exemple, le correcteur de l'édition de 1607 à Bruxelles, faite par Roger Velpius, et qui est plus correcte, puisqu'il se rend compte des anomalies de 1605, de cette absence de correction des phrases qui disent que Sancho est sur son âne alors qu'il ne l'a pas encore récupéré. Et dans cette édition de Bruxelles de 1607, ce correcteur plus attentif organise le récit de façon à ce que soient supprimées ces incohérences. La dernière remarque que je voudrais faire pour conclure, c'est les conséquences pour nous de cette entrée dans l'atelier, puisque face à cette instabilité des textes, et le Quichotte n'est pas le plus instable, évidemment il y a ces variations que j'ai évoquées à tous les moments du processus qui transforme le manuscrit en copie, de la copie en copie préparée et calibrée, où il y a d'autre part ces modifications qui se lient avec les interventions de Cervantes pour introduire dans les rééditions de 1605 et 1608 un certain nombre de modifications, mais ce sont des variations qui restent plus limitées que celles qu'on peut rencontrer, par exemple, dans le cas des éditions des pièces de théâtre dans l'Angleterre shakespearienne. Néanmoins, reste posée la question de comment penser le rapport qui peut exister entre ces états de texte, à la fois à distance du manuscrit autographe et d'autre part multiples dans leur forme et l'œuvre. Et les réponses à cette question ont varié de manière tout à fait considérable, puisque d'un côté, les réponses à la fois les plus classiques, mais aussi parfois les plus philologiques, ont consisté à traverser tous les états successifs d'un même texte pour en repérer les multiples variantes ou variation, avec pour but l'idée de retrouver in fine le texte premier celui voulu par l'auteur, qui existerait en deçà ou au-delà des multiples matérialités de son ou de ses inscriptions, et donc du coup l'étude rigoureuse des différents états d'un texte est totalement mobilisée par ce dessein, c'est-à-dire de retrouver le texte avant les altérations que nécessairement lui ont infligées le processus de copie et plus encore le processus d'impression. Et de là une distinction radicale entre cette œuvre transcendante, identique avec l'intention auctoriale, et les multiples états matériels à travers lesquels elle s'est donnée à lire. Et cette perspective, qui est à la fois une perspective qu'on peut rencontrer dans les formes les plus classiques ou les plus traditionnelles de la critique littéraire, comme si finalement l'œuvre transcendait tous ses états successifs et pouvait être récupérée dans cette sorte de pureté et d'intégrité, mais elle est aussi présente dans des disciplines qui apparemment se vouent entièrement à l'analyse des états successifs des œuvres, par exemple la bibliographie matérielle qui étudie des éditions, des émissions, des exemplaires, mais avec le but de pouvoir détecter comment, dans le processus même de la publication imprimée, les habitudes, les erreurs, les confusions des correcteurs ou des compositeurs, si elles sont repérées, peuvent permettre de reconstruire le texte tel qu'il lui préexisterait. Et de là une distinction fondamentale dans cette perspective entre l'essence de l'œuvre et les accidents de sa publication. The essential and the accidentals est une division fondamentale dans cette perspective. On voit cette sorte de rêve ou d'obsession ou de recherche permanente pour aller des états disponibles des œuvres à l'essence même transcendante de la dite œuvre. Et cette pratique, c'est la pratique de l'analyse philologique ou c'est la pratique de l'analyse du travail éditorial tel qu'on le verrait dans les éditions de Francisco Rico, traverser toutes les états imprimés du Quichotte pour restituer contre les déformations, erreurs, bévues des correcteurs ou des compositeurs un texte qui serait au plus près de ce que l'on peut penser que Cervantes a écrit. Une autre possibilité face à cette tension entre multiplicité des états et essence transcendante de l'œuvre consiste au contraire à considérer chacun des états comme la réalité historique de l'œuvre et de considérer que chacun des états imprimés, même dans certains cas avec des anomalies, des bizarreries, est ce qui a été lu par des lecteurs, et finalement constitue l'œuvre dans sa dispersion, sa dissémination. Et il est vain d'essayer de réduire cette diversité. Ce qui est en jeu, c'est de décider en faveur d'un état ou d'un autre, pour l'analyser ou pour le publier, en fonction de la question que pose le philologue, le critique, l'historien ou le bibliographe. Il ne s'agit donc pas d'essayer de remonter toute la série des incarnations successives de l'œuvre pour la retrouver dans son essence transcendante, mais il s'agit de considérer historiquement chacun des états successifs de cette œuvre comme ayant été lu par les lecteurs du temps et comme ayant donné une existence, mais pas unique, une existence à l'œuvre. Et donc, du coup, la pratique philologique ou la pratique éditoriale consiste à expliciter des choix. Pourquoi choisir tel ou tel état du texte ? Alors, je fais cet excursus plus méthodologique dans la mesure où, évidemment, il nous oblige à réintroduire, pas toujours avec toutes les données nécessaires pour mener l'analyse jusqu'au terme, mais il oblige à réintroduire quelque chose qui a à voir avec la mobilité, la variation du texte. Lorsque l'on dit la traduction du Quichotte, la traduction de quel Quichotte ? Est-ce que Shelton traduit la première édition, la seconde édition avec les épisodes des ânes volés et de l'âne volé récupéré, ou l'édition de 1607, ce qui semble probable, de Roger Velpius à Bruxelles. Il y a donc une question en amont, finalement, des questions que j'avais posées jusqu'ici, qui est la question de quel est ce texte qui sert de matrice, de référence, qui est l'objet à la fois des traductions, des interprétations et des commentaires ou des adaptations théâtrales. Et c'est une question qui doit toujours être présente à l'esprit, pour nous évidemment et pour eux aussi. Les œuvres peuvent exister comme étant au-delà de toutes leurs incarnations spécifiques, mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'une écoute, lorsqu'il s'agit d'une lecture, lorsqu'il s'agit d'une traduction, c'est toujours à partir d'un état tout à fait spécifique, particulier, historique de l'œuvre que cette pratique est menée. Et c'est là, je crois, la tension fondamentale qui peut habiter, au-delà de mon projet de retrouver le Cardenio perdu, qui peut habiter une approche qui croise à la fois une histoire matérielle des textes, l'histoire des livres, manuscrits, imprimés, une approche qui est une approche en termes d'histoire culturelle de la production, de la publication et de la réception des œuvres, et qui met en jeu les normes, les conventions, les catégories de tous ceux qui sont impliqués dans ce processus de transmission qui va depuis la création, la composition d'un texte jusqu'à son interprétation par des lecteurs ou par des auditeurs, et une dimension qui n'est pas histoire matérielle des objets, qui n'est pas histoire culturelle des individus, mais qui serait cette histoire critique des textes, entendus aussi dans leur dimension narrative, poétique, stylistique. Et c'est, je crois, de la rencontre entre ces trois éléments, je crois, que l'on peut faire naître une analyse comme celle que je reprendrai la semaine prochaine, c'est-à-dire comment le Don Quichotte, l'histoire écrite par Cervantes, avec la mobilité que l'on vient de repérer, de détecter dans les premières éditions, a pu donner matière à d'autres adaptations théâtrales, pas celles des dramaturges anglais de 1613, mais pour la prochaine fois, celle d'un contemporain de Cervantes, Guillén de Castro, dans une comédia qu'il fait représenter sous le titre « Don Quixote de la Mancha ». Merci, donc on se retrouve le jeudi à 10h, je ne sais pas si on reste dans ce grand espace ou si nous aurons un théâtre un peu plus réduit pour un théâtre à l'italienne et non pas comme un théâtre Elisabetta ou un choral de commedia, mais donc on verra ça jeudi à 10h.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.